Bon début de semaine tout le monde, nous sommes exclusivement live ce matin pour l'heure toute liberté avec notre cher Karim qui était un petit peu malade hier, mais c'est pas grave, on a décidé justement de soigner puis de, comme on dit, la nuit porte conseil et la guérisseuse, ben c'est ça qui est arrivé dans notre cas. Sujet d'aujourd'hui assez touché quand même, mais on en a déjà parlé un peu dans une chronique passée il y a quelques mois. Si vous avez suivi un peu l'actualité dans le dernier week-end, vous savez que ça brasse de plus en plus au Moyen-Orient. L'Iran a lancé une attaque officielle contre Israël avec des centaines de drones et des missiles balistiques. Et autant que ça a été majoritairement repoussé, ben, ça reste que c'est pas juste une question de c'est un groupe terroriste payé par-ci. Non, c'est vraiment le pays qui a attaqué un autre pays. Là. Fait que, Karim, vous voulez nous expliquer un peu les origines de ce conflit-là entre Israël et l'Iran? Donc, on en parle ce matin dans En toute liberté. Salut Karim.
Salut Joey.
Ça fait le mieux, là?
Oui, oui, ça va beaucoup mieux ce matin. Beaucoup mieux.
Yes. Oui, fait que, écoute, je te laisse aller là-dessus, bien évidemment. Sûr que je connais un petit peu le légèrement l'histoire derrière, mais n'étant pas un expert du Moyen-Orient, bien évidemment, tu vas nous apporter davantage de détails là-dessus, parce que, tu sais, pour que les gens, peut-être, qui ne savent pas, tu es d'origine libanaise, donc tu connais quand même un peu la région, du moins, tu as été à plusieurs reprises, donc je te laisse aller.
Oui, exactement. Il faut mentionner, je n'en parle pas en tant qu'expert non plus. Je n'ai pas un doctorat en géopolitique du Moyen-Orient. J'ai pas du tout cette prétention-là. Mais oui, en raison de mes origines et de mes intérêts personnels, je lis quand même beaucoup sur le conflit. Ça fait des années que je lis là-dessus et sur cette région du monde qui m'intéresse. Là. Donc, oui, absolument. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler, surtout que ça fait partie de l'actualité. Puis c'est le fun, une fois de temps en temps, d'aller outside of the box. Puis pas uniquement parler d'un seul sujet à répétition. Oh, ouais. Donc, je me suis dit, ça, on pourrait saisir, prendre au bon, la balle au bon avec ce qui se passe dans l'actualité. Puis ce que je vais essayer d'apporter, c'est de parler un peu historiquement du conflit aussi, parce que lorsqu'on regarde un petit peu dans les médias, il y a des articles de Radio-Canada, il y en a dans The Economist, Washington Post, New York Times, Israel Times, toute la planète parle de ça en ce moment, mais on tient compte toujours lorsqu'on fait l'article que les gens ont toutes les connaissances pour comprendre l'ensemble du conflit, quand en réalité, c'est plus complexe que ça en a l'air lorsque tu fais un article seulement de 500 mots. On peut s'y perdre un petit peu. Puis, ce qu'on va faire, on va partir de 1950, okay? Parce que là, à un moment donné, on pourrait remonter à l'ère pré-biblique aussi pour expliquer l'ensemble des conflits du Moyen-Orient.
Quand les Juifs ont quitté Babylone,
exactement.
On va aller loin.
on va commencer, disons, en 1950. Pourquoi? Parce que 1950, c'était une date où est-ce qu'il y avait... ça allait très bien entre Israël et entre l'Iran. Puis on va voir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, qui a fait en sorte que ce sont devenus des ennemis jurés. Et il y a aussi certaines connaissances qu'on va référer à l'ancienne chronique qu'on avait faite lorsque j'avais parlé du conflit israélo-palestinien, en l'occurrence avec la guerre civile du Liban, parce que c'était une chronique là, d'au-dessus d'une heure, donc il y a du stock aussi dans cette chronique-là. Maintenant, parlons un peu l'histoire des relations israélo-iraniennes. Pourquoi remonter en 1950? Parce que en 1950, c'est la date où est-ce que l'Iran a été le deuxième pays musulman après la Turquie à reconnaître officiellement l'État d'Israël. Quand même particulier, hein, en ce moment, ce sont des ennemis jurés, mais souvenons-nous, en 1950, le deuxième pays musulman à avoir reconnu l'État hébreu officiellement, c'était l'Iran. Maintenant, juste un petit rappel historique de la fondation de l'État d'Israël, parce que c'est quand même assez important. Tout a débuté, la fondation officielle de l'État, je veux dire l'indépendance officielle de l'État d'Israël, c'est en 1948, mais tout a débuté, bon, oui, à l'ère pré-biblique, on s'entend, là, mais là, parlons en temps moderne. Il y avait, avant 1917, les territoires, avant la Première Guerre mondiale, les territoires étaient, l'ensemble des territoires du Moyen-Orient étaient, la majeure partie était occupée par l'Empire ottoman. Okay? Empire ottoman qui aujourd'hui on appelle les Turcs. Suite à la défaite de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'est effondré, s'est démantibulé. Et il fallait, à cette époque-là, tu avais majoritairement des Palestiniens, des musulmans qui demeuraient dans la région qu'on appelle Israël aujourd'hui, mais tu avais des Juifs aussi, mais qui étaient minoritaires. Suite à l'issue de la Première Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle l'entente de Balfour, où est-ce que les Britanniques s'étaient engagés à former un État juif en Palestine, au Moyen-Orient, donc le territoire qu'on appelle Israël aujourd'hui, qu'on appelait la Palestine. Et c'est ça, ils s'étaient engagés. Et les Palestiniens étaient fortement en désaccord. Ils disaient que non, suite au démantibulement de l'Empire ottoman, c'est eux qui avaient plus de revendications historiques. Les Juifs disaient non, c'est nous, si on remonte à l'ère pré-biblique, regardez. Bref, ça s'ostinait. Et il n'y a jamais eu la création vraiment de l'État d'Israël comme ce que voulaient faire les Britanniques suite à la promesse de Balfour. C'est arrivé suite à la Deuxième Guerre mondiale après l'Holocauste, où est-ce que à ce moment-là, il y a eu officiellement la création de l'État d'Israël en 1948. La déclaration de l'indépendance d'Israël, tu avais quand même entre 1917 et 1948 beaucoup de colonisation juive sous l'égide de la Grande-Bretagne. Mais c'est en 1948 que le pacte entre les Anglais et les Israéliens s'est terminé et Israël a déclaré son indépendance. Suite à ça, on a eu ce qu'on appelait la guerre israélo-arabe qui a duré une dizaine de mois entre 1948 et 1949, fin de la guerre gagnée par Israël. Donc, la guerre opposait les Palestiniens naturellement, une portion des forces de l'Irak, la Jordanie, ce qu'on appelait la Transjordanie, et également la Syrie. Israël a gagné, et suite à ça, il y a eu un accroissement des frontières d'Israël, parce que le pacte des Nations Unies disait que ça serait 50-50, c'est-à-dire tu aurais 50% d'Israël, 50% qui serait la Palestine, 50% qui serait Israël. Là, suite au fait que les Israéliens ont gagné cette guerre, il y a eu un accroissement, c'est-à-dire la totalité du territoire israélien, les Israéliens le gardaient, et 60% du territoire qui était supposé être palestinien est revenu aux mains des Israéliens. C'est à peu près toujours ce qui se passe lorsque tu gagnes une guerre, t'en prends plus. C'est un peu le...
Ben oui, c'est ça, les perdants ont toujours tort, là, tu sais, ça a toujours été ça.
C'est exactement, c'est en plein ça. Maintenant, on arrive en 1949, et là on regarde de façon parallèle, on est rendu en 1949, la fin de la guerre arabe, et en 1950, l'Iran, deuxième pays musulman à reconnaître l'État hébreu d'Israël. Qu'est-ce qui se passait en Iran à cette époque-là? L'Iran était... En 1950, gouverné par un premier ministre qui était élu démocratiquement, mais il y avait aussi une monarchie, le Shah, ce qu'on appelle le Shah,
c'était le monarque. S-H-A-H, pour ceux qui disent, et non pas le Shah miaou, là, c'est ça, c'était le Shah qui date de beaucoup d'antan, à l'époque de l'Empire perse, en passant, ils l'ont appelé le Shah pendant très 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 longtemps avant que l'Iran se construise, mais c'est ça, à l'époque, ils appelaient ça le Shah.
Exact. Exact, c'est en plein ça. Donc, ça, c'était en 1950. Il y avait un premier ministre et il y avait également un monarque, mais le pouvoir du monarque était quand même très restreint. C'était un régime plutôt semi-libéral, disons, et ils ont reconnu l'État d'Israël. Maintenant, en 1953, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un coup d'État. OK, parce que le président le premier ministre de l'Iran avait des tendances un peu nationalistes, il voulait nationaliser le pétrole, ça faisait pas trop l'affaire des Américains. Il y a eu un coup d'État sous l'égide de Washington et de Londres pour renverser le premier ministre et faire en sorte que les pouvoirs du Shah allaient devenir plus grands, donc une genre de monarchie pratiquement absolue avec un pouvoir dictatorial, mais à la fois très pro-Washington et qui était également très pro-Israël. Donc, le Shah d'Iran était pro-Israël, pro-Washington. Ce ne serait pas un État vassal de Washington, ce n'était pas à ce point-là, mais c'était un régime qui était très pro-Washington, donc par le fait même très pro-Israël. Et faut le mentionner, à cette époque-là, c'était plutôt libéral. Hein, je veux dire,
c'est ça que j'allais dire. C'est que souvent, on voit la forme de radicalisation que ça a pris besoin du je dirais pas une radicalisation, mais plus que ça a plus penché sur le tangent religieux par la suite dans les différentes pratiques, parce qu'il y a une époque dans les années 50 que tu allais en Iran et les femmes portaient des jupes courtes, puis tu sais, on était vraiment plus dans un mode plus occidental que nécessairement l'image automatique qu'on se fait d'un pays du Moyen-Orient aujourd'hui.
Tout à fait. C'était les mœurs de vie, c'était plutôt libéral. Par contre, le pouvoir politique était très fort. C'est-à-dire, la politique était réservée à l'élite. C'était plutôt aristique. Je veux dire, tu pouvais pas faire de la politique et critiquer le régime, monsieur, madame, tout le monde, comme on fait ici, puis on se part un petit parti, puis ça fonctionnait pas comme ça, du moins jusqu'en 1979. Mais c'est ça qui est intéressant ici, c'est que suite au coup d'État, ce qu'on appelle Khomeini, qui est devenu l'Ayatollah Khomeini, donc le guide suprême iranien, lui est obligé de s'exiler. Il s'est exilé en France suite au coup d'État, parce que il craignait d'être emprisonné ou exécuté par, je veux dire, le pouvoir monarchique. Il est parti, mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, c'était un État qui était relativement laïque dans la rue, pas laïque comme ici, là, je veux dire, mais disons, c'est un État qui était assez libéral, assez sécularisé. Cependant, ce qu'on appelle les mollahs, okay, quand on parle toujours là, dans les articles, on va dire le régime des mollahs. C'est quoi les mollahs? On va faire un lien. Les mollahs, c'est un peu, si on compare à la hiérarchie catholique, okay, et là, ne me dites pas, il y a toutes sortes de nuances. Je sais qu'il y a toutes sortes de nuances. Là, entre les deux religions, ce n'est pas la même religion, ce n'est pas le même rapport au monde. Je sais. Mais juste pour donner un exemple, l'ayatollah, c'est un peu comme l'équivalent du pape. C'est comme le guide spirituel suprême. Mmh. Et les mollahs, c'est comme il y a des hiérarchies entre les mollahs, c'est-à-dire évêques, cardinaux, etc. Okay? Mais avec plus de pouvoir décisionnel. Mais eux, donc, le Shah avait donné quand même la permission. Ils ne pouvaient pas être armés, ça c'est certain. Il n'y avait pas de pouvoir politique, mais ils conservaient quand même un pouvoir moral sur leur communauté. Et ils prêchaient dans leur communauté. Donc, les mollahs étaient encore là. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est ils ont été sneaky, les mollahs, quand même. Puis l'Ayatollah Khomeini était quand même très sneaky. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1953 et 1979, ça? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce temps-là? La montée de l'Union soviétique.
Mm-hmm.
Ben oui, exactement. L'influence de l'Union soviétique était énorme au Moyen-Orient. Lorsque tu vas au Moyen-Orient, tu as encore des gens qui sont très, très, très pro ancienne Union soviétique. À l'époque, l'Union soviétique donnait des bourses pour aller étudier en Bulgarie, pour aller étudier dans tous les États, les États qui faisaient partie de l'Union soviétique à l'époque. Et en Russie également, tu vas voir beaucoup de Libanais, beaucoup de Syriens, d'Irakiens qui ont des diplômes de l'ancienne Bulgarie, de l'ancienne Roumanie et également de Moscou. Donc, il y avait cette influence et il s'est bâti un parti qu'on appelle le parti Tudeh, T-U, excusez mon iranien, là, je ne parle pas iranien, c'est assez, bien, assez différent de l'arabe là, quand même, T-U-D-E-H, OK? Ce parti-là, c'était l'équivalent d'un parti communiste iranien, fait de jeunes qui avaient des revendications communistes, un peu le lutte des classes, également trouvaient le Shah trop autoritaire, considéraient que le Shah était un peu un pion de Washington, il y avait tout ça. Et ça a été comme la bougie d'allumage qui a amené à la révolution iranienne en 1979. Donc, lorsqu'on dit que c'est une révolution des mollahs, c'est vrai, mais les mollahs se sont affiliés avec les communistes, toute la jeunesse communiste. Les deux se sont affiliés ensemble pour renverser le trône du Shah.
C'est quelque chose, sachant que le mouvement communiste, du moins en général, historiquement, a toujours été un peu anti-religieux. Là, c'est toujours été un mouvement plus, je dirais pas laïque, mais dans le sens que, c'est quand même Marx qui disait que la religion, c'est l'opium du peuple. Là, fait que voir, il faut vraiment que tu ailles sur le pouvoir en place pour que tu fasses des alliances avec des gens, justement, que tu trosses peut-être un peu moins sur certains enjeux, mais que si tu décides de faire front commun contre.
Bien, écoute, ils se sont affiliés ensemble, mais lorsque des athées communistes s'affilient avec des mollahs ultra-religieux, ça va mal se finir pour l'un ou pour l'autre. Et là, ça s'est mal fini pour les communistes, ils ont fini au bout d'une corde.
Bon, ben ça explique donc, mon point.
Les mollahs ont pris le pouvoir et ils ont balancé les communistes au bout d'une corde. C'est malheureux, mais il y a une le communisme et l'ultra-religiosité, l'ultra-conservatisme religieux des mollahs, ça ne pouvait pas cohabiter ensemble.
C'est de l'eau puis de l'huile.
Ils ont été les idiots utiles des mollahs, d'une certaine façon. Mais c'est malheureux pour eux, mais c'est ça. Donc, suite à ça, les mollahs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait revenir leur guide suprême, qui est devenu l'ayatollah Khomeini. Aujourd'hui, c'est Khamenei, c'est plus le même. Il y a le même poste, il y a le même titre, mais donc l'ayatollah Khomeini.
Il ressemble en plus, ça qui est le drôle. C'est qu'on dirait que c'est la même. On dirait quasiment que c'est la même personne
qui est
immortel, mais non, c'est pas la même personne.
qui est immortel, exact. Et donc ça, et c'est là que l'Iran est devenu la République islamique d'Iran, 1979. Et on s'entend, ça ne faisait pas l'affaire de Washington du tout, ça ne faisait pas l'affaire d'Israël. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un sentiment... le sentiment très anti-Washington était déjà créé en Iran, particulièrement dans le groupe communiste, et les mollahs, on s'entend, n'aimaient pas du tout Washington. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu vraiment des tensions très importantes avec Israël, parce que l'ayatollah Khomeini et l'instauration de son régime religieux était totalement incompatible avec les valeurs de l'Occident, mais également avec les intérêts. Ils ont commencé les intérêts pétroliers aussi, parce que Israël bénéficiait énormément des ententes avec le Shah, avec la monarchie iranienne, pour se développer en ayant accès au pétrole iranien. Lorsque le régime religieux a été mis en place, il y avait constamment des menaces de ne pas fournir en pétrole, du chantage, des choses comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là que les Iraniens ont étendu un peu leur pieuvre à travers le Moyen-Orient, à travers des proxys. Et là, on se retranspose.
Et peut-être juste faire une mini-parenthèse, pour ceux que ça intéresse de voir un peu ce qui s'est passé dans les jours de la Révolution, tu sais, le film Argo avec Ben Affleck
c'est bon.
des dernières années est très, très bon à ce sujet-là, parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, les assaillants ils ont carrément envahi l'ambassade américaine à Téhéran, puis il y a eu des otages, puis justement, plusieurs années par la suite, puis c'est ça que le film parle, en fait, c'est qu'ils ont c'est vraiment des jasants secrets qui sont pris pour une équipe de cinéastes canadiens qui ont fait, avec l'aide des États-Unis, mais qui ont réussi à faire transférer les otages, en tout cas de manière incognito, en tout cas l'histoire est vraiment folle, mais c'est arrivé pour de vrai. Tu sais, quand c'est rendu que le Parlement canadien a dû se réunir en secret pour autoriser, je pense, 12 passeports, des faux passeports, en fait, pour ces agents-là, sans que le peuple le sache, non, c'est fou. Là. C'est à l'époque
quand même une Carter, histoire là. Exceptionnelle. Ceux qui n'ont pas vu ce film-là, c'est Argo, hein, le titre.
Argo, c'est ça.
Ouais, ceux qui n'ont pas vu ce film-là, c'est RGO. Ça vaut vraiment la peine. Super de bon film historique. Un peu romancé, on s'entend.
Oui,
mais,
bien sûr.
Mais je veux dire, les faits sont quand même relativement bien conservés, là, malgré la romance autour du film. Puis Ben Affleck joue super bien son rôle dans ce film-là. Non, beau film historique, moi j'ai bien apprécié. Et là, on a la création des proxys. Et c'est à partir de ce moment-là, s'il y a des gens qui veulent plus d'informations là-dessus, référence à notre capsule, à notre ancienne capsule où est-ce qu'on parlait exclusivement là, des proxys iraniens avec avec l'OLP, le Fatah d'Yasser Arafat, etc. On parlait le Hezbollah, tout ça. Référence à notre ancienne capsule parce qu'il y a pas mal de stock là-dedans. Mais grosso modo, qu'est-ce qui se passe en ce moment en 1979? On est en plein milieu de la guerre civile au Liban. Parce que la guerre civile de 1975 à 1990, on est en plein milieu de la guerre civile au Liban. On est également en plein milieu d'un conflit entre Israël et de multiples factions palestiniennes. Le Fatah, l'OLP, les fédayins palestiniens. En raison de ça, on a une migration de Palestiniens extrêmement importante au Liban, ce qui a créé la guerre civile au Liban, entre autres. Et ces Palestiniens-là, du Liban, envoyaient constamment des attaques sur Israël. Donc, en 1982, Israël envahit le Liban. Et là, l'Iran, sous l'égide de l'ayatollah Khomeini, crée ce qu'on appelle le Hezbollah, qui est à l'heure actuelle son proxy le plus puissant. Il le crée pour faire un contrepoids à Israël et aux phalangistes chrétiens maronites libanais. Et donc là, on est vraiment en plein cœur d'un affrontement asymétrique entre Israël et l'Iran, mais à travers des proxys. Et parmi les proxys, il n'y avait pas seulement le Hezbollah, il y avait également le djihad islamique qui opérait à Gaza et en Cisjordanie. On rappelle, Gaza maintenant, je pense que tout le monde sait c'est où, là. Frontière avec l'Égypte et frontière également avec l'État d'Israël, frontière sud avec l'Égypte. Et ouais, tu l'as sur la carte, exactement.
C'est ça, pour vous montrer un peu. C'est ça que là, il y a les villes beaucoup, là, c'est un peu plus compliqué, là. Mais c'est ça. On parle d'Israël, bien évidemment, ici. La bande de Gaza, c'est la bande qui a l'âge.
Exact.
Et bien évidemment, le Liban est plus haut et l'Iran se trouve juste ici.
Tout à fait. Donc, l'Iran est séparé de... L'Iran n'a pas de frontière avec Israël, il a une frontière avec l'Irak. Okay?
Il faut rappeler aussi, peut-être c'est important de le dire, mais beaucoup de ces frontières-là ont été créées par les Européens, par les Britanniques et les Français à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre également. Oui, c'est ça. Pour ceux qui s'intéressent, Laurence d'Arabie, très bon film également qui parle de ce sujet-là.
Exact.
Un classique.
Et la Cisjordanie, pourquoi on l'appelle la Cisjordanie? Parce qu'elle a une frontière avec la Jordanie. Et c'était ces deux portions-là, selon les Nations Unies, qui devaient aller à la Palestine pour créer un État palestinien et le reste allait à Israël. Les deux se sont jamais vraiment entendus sur les frontières respectives.
Okay, État cisgenre, hein? Joke plate de matin, du lundi, matin. Fallait que je la sorte.
Tu voulais trouver la façon de la...
Ouais, c'est ça.
Et maintenant, on arrive, on regarde, donc, on est en plein milieu des années 80, guerre civile au Liban, proxy du Hezbollah au Liban, proxy également en Cisjordanie et à Gaza du djihad islamique financé par l'Iran. Une autre date clé assez importante, c'est 1990. Et là, c'est là qu'on a de l'escalade. Donc, depuis ce temps-là, on va d'escalade en escalade entre l'Iran et Israël. L'Iran affirme avoir, en 1990, développé un missile de 1300 km de portée. Pourquoi 1300 km? Parce que c'est à peu près la distance entre Téhéran et Tel Aviv. Donc, provocation, est-ce que le missile était vraiment opérationnel en 1990? Certains en doutaient, mais maintenant, on sait qu'ils les ont. En 2024, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais 1990, ça a été la première affirmation de l'État iranien qu'ils avaient un missile à moyenne portée qui était en mesure d'atteindre l'État hébreu. Donc, ça, et il y avait de plus en plus de rumeurs sur l'Iran qui voulait développer l'arme nucléaire pour sanctuariser son territoire. Donc là, ça envenimait les relations. Israël se sentait menacé parce que si tu envoies un missile, et elle n'avait pas le dôme de fer en 1990, du moins vraiment pas opérationnel comme il est aujourd'hui.
C'est une défense antiaérienne, pour ceux qui veulent savoir.
Oui, tout à fait. Maintenant, une autre date, 2005, l'élection, je ne sais pas si tu t'en souviens, de Mahmoud Ahmadinejad. Ça, c'est l'ancien président iranien, ultra-conservateur, ultra-anti-Washington et négationniste également. Négationniste, le vrai terme négationniste, c'est-à-dire qui nie l'Holocauste, ou du moins qui
analyse l'Holocauste. Ça, c'est le prédécesseur de Ahmadinejad, je ne veux pas me tromper.
Ce n'est pas le président iranien actuel, c'est l'ancien président iranien.
L'ancien, OK,
exactement. C'est l'ancien président iranien. C'est pas lui qui a le pouvoir suprême, ça demeure l'Ayatollah Khomeini l'Ayatollah Khomeini qui a le pouvoir suprême, mais ça demeure le président et le commandant en chef de l'armée iranienne. Le commandant en chef des gardiens de la révolution, qui est un peu l'élite militaire, c'est l'Ayatollah. Donc, l'élection de Mahmoud Ahmadinejad crée encore des conflits, crée de la paranoïa quand même assez justifiée chez les Israéliens parce qu'il se met à nier l'Holocauste. Donc, c'est sûr que juste des termes comme ça venant de monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas grand-chose, c'est juste plate. Par contre, venant d'un président qui aurait soi-disant des missiles à longue portée capables d'atteindre ton État, c'est un peu plus gênant, disons. Suite à ça, il y a eu un blocus économique quand même très important de la part de Washington et de la part de la communauté internationale sur l'Iran. L'Iran, de son côté, s'est tourné pour fédérer d'autres nations, dont la Russie, la Syrie, l'Irak, et également avoir des ententes commerciales avec la Chine qui sont de plus en plus importantes. En 2006, tout ceci a amené la guerre Israël-Hezbollah, la plus grosse guerre qu'ils ont fait là, après la guerre civile, qui ne s'est pas terminée tout à fait en faveur d'Israël parce qu'ils ont été surpris par les armes anti-tank du Hezbollah. Mais c'était encore des guerres de proxy. Il n'y avait pas d'intervention directe de l'Iran. Pourquoi l'Iran n'avait pas l'intérêt? Parce que c'est tout à fait que les États-Unis sont en arrière d'Israël et que militairement, ils ne feraient pas le poids. Et leur objectif, eux, c'est de développer la bombe atomique pour sanctuariser leur territoire. Donc, ils n'ont pas intérêt à faire une guerre face à face. Mais là, et autre date importante, en 2013 et 2018, la guerre en Syrie. On sait que l'Iran luttait férocement avec le Hezbollah pour maintenir le pouvoir du gouvernement Assad. Et parce que Assad, il fait partie là, d'un groupe qui est une déclinaison du chiisme. Il fait partie de la grande famille des chiites. Et également les intérêts. On sait que Washington également voulait renverser le gouvernement Assad au départ avec l'État islamique, mais à partir du moment où ils se sont rendus compte que l'État islamique était rendu incontrôlable, un peu tout le monde s'est mis contre l'État islamique, incluant Washington et Israël et l'Iran et le Hezbollah. Mais il y a eu quand même des tensions assez importantes entre Israël et l'Iran au moment de la guerre en Syrie, parce que l'un était en faveur du renversement du gouvernement Assad et l'autre, l'Iran est en faveur du maintien du pouvoir du gouvernement Assad, et parce que les liens entre la Syrie et l'Iran sont tout à fait cordiales.
Incluant la Russie puis la Chine aussi, qui backait la Syrie dans ce conflit-là.
Tout à fait, oui, absolument. La Russie a une base maintenant en Syrie. Oui,
c'est ça. Ils ont une base dans le nord. Oui, tu me l'avais montré dans la dernière chronique.
Oui, la Russie a une base militaire officielle. Et l'Iran a un consulat également. Et c'est là qu'on arrive, on a fait ce petit détour historique pour un peu expliquer qu'est-ce qui fait en sorte, ça vient d'où ce conflit-là, pourquoi ils ont passé de frères amis à cousins ennemis, l'Iran et Israël. Et maintenant, on est arrivé à l'actualité. Actualité, événement du 7 octobre 2023, on se souvient tous de l'événement, attaque horrible de l'organisation terroriste, le Hamas, qui, malgré qu'ils sont sunnites, le Hamas, c'est quoi? Rappelons, c'est la portion des frères musulmans à Gaza. C'est ça, le Hamas. Ce sont des frères musulmans sunnites qui sont à Gaza. Mais malgré qu'ils sont des sunnites, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas penser que tout s'explique entre le musulman, chrétien, sunnite, chiite. C'est un peu plus compliqué que ça. Parfois, il y a des alliances un peu improbables, dont le Hamas, qui est financé par l'Iran. Pourquoi ils sont financés par l'Iran, malgré que que l'un est chiite, l'autre est sunnite, qu'il y a des rivalités, en Syrie, le Hezbollah luttait de façon très féroce contre le Hamas? Ben, ils se sont réunis parce que... L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Eux, ils ont cette... Donc, ils veulent...
Puis le plus drôle, c'est que dans le passé, Israël a financé le Hamas à une certaine époque. Fait que ça montre à quel point c'est tellement un melting pot de tout et n'importe quoi, des fois. Fait que c'est un peu ça. Hein.
Oui, exact. C'est en plein ça. Bon. Et là, on arrive à... l'événement du 7 octobre. Encore une fois, les services secrets américains, les services secrets britanniques, l'ensemble des services secrets disent, écoutez, on n'est pas certain. On sait que l'Iran finance le Hamas, c'est très clair, mais on n'est pas capable de faire de lien de cause à effet entre l'attaque terroriste du 7 octobre 2023 sur Israël par le Hamas et l'Iran. On n'est pas capable de faire le lien de cause à effet. Mais on sait très bien qu'ils sont financés par l'Iran, donc l'Iran est indirectement responsable, même si selon la plupart des renseignements, il n'était pas au courant. Okay? Parce que ce n'était pas nécessairement dans l'avantage de l'Iran non plus de donner un OK pour ça, parce que tu vas avoir une réponse très féroce d'Israël. Est-ce qu'Israël peut attaquer l'Iran? Est-ce que Washington peut s'en mêler? Il n'y avait pas nécessairement intérêt, mais regardez, c'est arrivé. Et à un moment donné, si tu finances une organisation terroriste, puis cette organisation terroriste-là font des actes de terrorisme, ça peut arriver qu'on cogne à ta porte puis qu'on te dise, ben, t'es responsable quand même. Donc, il y a ça. Et là, on sait tous qu'il y a eu des frappes colossales d'Israël sur Gaza qui ont été. Et qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Frappe colossale d'Israël contre Gaza. Et en même temps, il y a les outils au Yémen qui sont des proxys également de l'Iran, qui sont financés par l'Iran, qui se sont mis à faire du piratage de bateaux commerciaux en mer Rouge au niveau du détroit de Bab al-Mahtad. OK? Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça a bloqué le commerce international. Ça bloque le commerce international. Tu as eu une coalition française, britannique, américaine et italienne pour essayer de contrer ces outils-là, parce que...
Et saoudienne, je pense aussi, ça se peut-tu?
Saoudienne, c'est tout à fait possible, parce que l'Arabie saoudite n'ont pas les outils dans leur cœur, vraiment pas. Il les bombarde depuis une décennie. Là. Donc, les outils, rappelons, c'est quoi? C'est un groupe d'une déclinaison chiite au Yémen qui lutte pour renverser le pouvoir au Yémen. Okay? Et c'est un proxy de l'Iran qui est en guerre avec l'Arabie saoudite à l'heure actuelle et qui lance des missiles à moyenne portée en mer Rouge pour atteindre des navires et qui font du piratage de navires marchands, ce qui fait en sorte qu'il y a des retombées économiques quand même importantes parce que les assurances de ces navires, les assurances pour ces bateaux-là, soit les bateaux ne veulent plus y aller, soit les assurances augmentent énormément. Il y a même des usines Tesla qui ont fermé pendant quelques semaines, je pense deux semaines, en raison de ça, parce qu'il n'y avait plus le matériel pour opérer. Donc ça, tu as ça en ce moment, et tu as comme une genre de défaite un peu d'Israël quand on analyse la chose à Gaza. Oui, je veux dire, à Gaza, il est presque rendu un stationnement, mais tu n'as pas vraiment éliminé le Hamas. Tu as pu éliminer, je veux dire, les combattants du Hamas à Gaza. Mais
incluant 30 000 civils, mais ça, c'est ça.
Exactement. Et là, tu as complètement un renversement de l'opinion internationale face à Israël. Même le président américain Joe Biden, son organisation, Anthony Blinken, son secrétaire aux affaires étrangères, commence à dire « Ouais, il va falloir que vous arrêtiez parce que là, vous exagérez. » Je ne me rappelle pas de mon vivant d'avoir vu je ne dis pas que ça existe, ça n'a jamais existé, mais je ne me rappelle pas de mon vivant d'avoir entendu un président américain ou un secrétaire des affaires étrangères ou un secrétaire à la défense américaine de dire publiquement, ouvertement à Israël, de dire là, il faut que ça arrête, vous allez trop loin. Je ne me rappelle pas d'avoir vu ça. Donc, tu as une perte importante de l'opinion populaire. Tu es dans une année électorale américaine avec un sentiment fortement isolationniste aux États-Unis de plus en plus. Donc, tu as pu quand même avoir une certaine... C'est ça qui va nous amener un peu à regarder l'attaque. Le prochain élément qu'on va discuter, c'est l'attaque d'Israël en sol syrien sur un consulat iranien. Pourquoi Israël a fait ça? Tu poses la question... Pourquoi Israël?
Ils ont lancé un missile en passant. En tout cas, des missiles, je
pense. Ils ont lancé, au moins un. Et c'est le 1er avril dernier. Il y a eu 16 morts, dont 7 membres des gardiens de la Révolution, dont un général senior. Et ça, c'est considéré clairement comme un acte de guerre. C'est-à-dire, lorsque tu fais. Parce que lorsque tu es dans un consulat ou une ambassade, c'est comme si tu étais dans l'autre pays. Donc, c'est un acte de guerre contre l'Iran. À partir de ce moment-là, pourquoi ils ont fait ça? Ils savaient qu'il fallait que l'Iran riposte. Ils ne pouvaient pas ne pas riposter. Donc, si on regarde un petit peu, ça veut dire qu'Israël souhaitait qu'il y ait une riposte de l'Iran. une riposte directe de l'Iran. C'est sûr qu'il souhaitait ça. Parce que pourquoi il l'aurait fait à ce moment-là? Ça, c'est quand même assez intéressant.
C'est là que tu te dis, coudonc, Israël, veux-tu starter la Troisième Guerre mondiale juste pour dire qu'elle a eu raison? On dirait quasiment qu'ils ont tellement perdu à la face qu'ils se disent, ben, la seule manière d'avoir l'air moins pire, c'est quasiment de starter un conflit mondial multipolaire. Es-tu malade?
Et les éléments, j'ai regardé un petit peu, puis j'ai écouté, j'ai recoupé un peu ce que plusieurs analystes disaient, puis moi, j'en ai fait de mon interprétation aussi. Mais quand tu recoupes un petit peu ce qui se dit, tu regardes un peu...
Il y a eu du recyclage hier, hein, en passant, durant toute la fin de semaine. En tout cas, je parle pour TVA, là. Mais quand on demande l'avis de Luc Lavoie puis de Richard Latendresse sur le conflit israélo-iranien, excuse-moi, là, m'a dit, comme j'ai dit à d'autres, ma tante Monique, qui habite dans une RPA à la quai de chemin, en sait autant plus, autant égal que ce que Richard l'entendrait sur le Moyen-Orient.
Exact. C'est pour ça que c'est important de regarder un petit peu. Moi, j'ai pris cette habitude-là parce que je me rappelais très bien, j'ai développé ce sens un peu critique par rapport aux médias puis aux nouvelles en bas âge, parce que je me rappelle quand je voyageais au Liban, j'étais jeune, on écoutait Al Jazeera au Liban. Et quand j'étais ici, j'écoutais les nouvelles et on avait des versions diamétralement opposées. C'est-à-dire, les faits étaient les mêmes dans le sens où il y a eu un missile, il n'y a pas eu de missile, il y a eu des morts, il n'y a pas eu de morts. Mais l'interprétation des chroniqueurs, on était dans des mondes complètement différents.
Al Jazeera, c'est ça aussi, mais de l'autre bord, c'est ça l'affaire.
Tout à fait. Al Jazeera, c'est une bonne chaîne. Mettons que tu veux avoir une interprétation du conflit dans le Pacifique, OK? Là où ils ont moins d'intérêt, ils vont avoir, parce qu'ils ont des équipes de journalistes solides, tout ça. Cependant, OK, c'est sûr que si tu demandes l'opinion, si tu vas avoir un avis neutre sur le conflit arabo-zioniste ou israélo-palestinien, appelez-le comme vous voulez, Al Jazeera, il va avoir un billet ultra pro-Palestine. Ben mais le principe, si tu lis un journal, un journal de droite israélienne, alors, Al Jazeera, il faut le rappeler, c'est le Qatar. Le Qatar, c'est les frères musulmans. Donc, c'est le Hamas, d'une certaine façon. Donc, c'est sûr qu'ils vont avoir un biais. Mais après ça, tu recoupes un peu avec des économistes, tu recoupes avec le New York Times, le Washington Post, Reuters, l'agence France Presse, et tu prends un peu les consensus. À partir du moment, moi dans ma tête, à partir du moment où Al Jazeera dit la même chose que le New York Times, je me dis, OK, on est dans un fait probablement assez solide, tu sais, parce que, donc, puis quand on regarde un petit peu, tu sais, pourquoi? Là, tu sais, il y a beaucoup de gens, puis j'ai vu dans les commentaires, quelqu'un dit pour élargir le conflit dans le but de rester au pouvoir. C'est vrai que ça peut être alléchant de penser ça dans le sens, ça peut être tentant plutôt là, de penser ça rapidement.
Est-ce qu'il y a plus de révoltes en Israël qui demandent la démission de Netanyahou? Beaucoup d'Israéliens le demandent.
Exact.
Ils veulent autant que ça s'arrête que le reste, là.
Exact. Et Netanyahou, il risque d'aller en prison lorsqu'il perd le pouvoir. Donc, c'est sûr que c'est tentant pour lui, mais c'est une arme à double tranchant. Parce que en faisant ça, s'il y a une réponse de l'Iran, est-ce que le peuple va se rassembler derrière lui? Il va dire non, ça nous prend quelqu'un d'autre pour faire en sorte que le conflit s'arrête puis que ça escalade pas. Donc, c'est très, très risqué comme manœuvre. Et également, j'ai tendance à toujours être prudent à donner trop d'importance à un seul homme, à un seul individu. On a cette tendance-là naturelle à dire ce qui se passe si Poutine n'était pas là, la Russie n'aurait pas envahi l'Ukraine. Si Hitler n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu une Deuxième Guerre mondiale. Moi, je pense qu'il y en aurait eu une quand même. Si De Gaulle n'avait pas été là, ça parlerait allemand en France en ce moment. Pas nécessairement. Donc, c'est une hypothèse, mais c'est pas la seule. Une autre hypothèse qui est amenée, c'est beaucoup l'échec de l'éradication du Hamas. T'es rendu, tu rends Gaza un stationnement et tu te rends compte que les dirigeants, les têtes dirigeantes les plus importantes du Hamas se promènent un peu partout sur la planète. Et en ayant ramassé Gaza de la sorte, en ayant causé à peu près 30 000 pertes de vie civile, tu es en train de former des petits terroristes. Tu es en train de former des terroristes, là, des terroristes en devenir, c'est-à-dire des gens qui vont rentrer à l'école à l'école du terrorisme bientôt.
Ben oui, absolument.
Donc, c'est un peu une forme d'échec. Et là, si tu te rends compte que d'attaquer le terrorisme lui-même, c'est un échec, on s'en est rendu compte avec l'État islamique, il faut que tu attaques les têtes, il faut que tu attaques le financement, mais le financement vient de l'Iran. Donc, ça peut être tentant de faire une attaque contre la souveraineté iranienne en Syrie pour provoquer une attaque israélienne dans le but que Washington intervienne. Et le but ultime, c'est sûr que tu sais que l'Iran, ils peuvent développer une bombe atomique assez rapidement. Ils sont dans des processus d'enrichissement de l'uranium. S'il y avait une attaque concertée entre les forces de l'OTAN et Israël pour aller bombarder les facilités nucléaires de l'Iran, ça pourrait les faire retarder de 15-20 ans dans leur programme nucléaire. Donc, c'est sûr que ça pourrait être assez tentant. C'est des hypothèses qui sont amenées par certains analystes, puis je trouve qu'elle est quand même crédible.
Mais tu parlais du financement. Il y a un mime, on peut dire un mime, qui est un peu réel quand même, de Candace Owen qui a partagé en fin de semaine, puis je te l'ai trouvé quand même assez bon. Je suis curieux de t'entendre là-dessus par rapport à ce qui s'est passé en fin de semaine, tu sais. En haut, on voit les deux, la série de missiles envoyés par l'Iran, puis également la réponse du système antiaérien. Il y a marqué « My tax dollars », puis l'autre marqué « Somehow also my tax dollars », parce que pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que bien évidemment, les Américains envoient de l'argent depuis de nombreuses années à Israël pour diverses raisons, incluant l'armement et tout quoi que ce soit. Mais pourquoi ils parlent aussi de l'argent des payeurs de taxes américains pour ce qui est de l'Iran, c'est que, bien évidemment, vous le savez, les Américains ont quitté l'Afghanistan il y a quelques années de manière très spontanée en laissant une quantité incroyable d'équipements militaires sur place au profit des talibans. Et qui partage une frontière avec l'Afghanistan? Bien, c'est l'Iran. Puis ils ont été un des rares pays à, disons, soutenir le nouveau régime, si on peut dire ça comme ça. Fait que plus... Autant que c'est pas vrai à 100%, mais disons qu'il y aurait un soupçon de dire que ça se peut qu'une partie de l'équipement qui soit que l'Iran ait racheté aux talibans qui a été payé par de l'argent américain.
Ah, ben oui, je veux dire, ça c'est clair. C'est clair. Je veux dire, l'industrie de l'armement, je ne suis pas un expert de ça du tout, mais tu vois régulièrement des puissances qui vont vendre de l'armement aux ennemis de leurs aux amis de leurs ennemis, tout ça. Je veux dire, l'économie militaire aussi, tu as beaucoup de compagnies privées américaines qui vendent de l'argent. C'est pas nécessairement juste l'État américain.
Mais dans ce cas-ci, c'est même pas juste une vente, c'est qu'ils ont laissé le stock-là.
Ils ont laissé le stock-là, exactement.
Puis ils l'ont juste ramassé. C'est juste ça qui est le plus drôle, tu sais.
Tout à fait. Donc oui, c'est tout à fait possible parce que, comme tu dis, il y a une frontière directe entre l'Afghanistan et entre l'Iran. Donc oui, qu'il y a des bombes made in USA qui sont lancées, qui ont été lancées sur Israël de l'Iran, c'est tout à fait une possibilité. Là, c'est très crédible comme possibilité, tant qu'à moi. Donc, c'est un petit peu ça. Moi, j'aurais tendance à opter pour, je dirais, un peu de tout ça. C'est dans l'avantage de Netanyahou que ça peut être dans son avantage, ça pourrait même être dans son désavantage, mais s'il est désespéré de garder le pouvoir, oui, ça peut être en son avantage. Également, la volonté d'attaquer la source du mal, je parle pas mal au sens absolu, là, mais je parle au sens relatif. Vu d'Israël, l'Iran, c'est le mal, c'est la source de financement de l'ensemble des proxys autour, tant et aussi longtemps que ça va demeurer une puissance économique et militaire, et en plus, ils sont en mesure d'avoir la bombe nucléaire, ça pourrait être une catastrophe pour la sécurité d'Israël. En plus de ça, là, ils sanctuariseraient leur territoire, ça serait très difficile. Oublie ça, à partir du moment où ils ont l'arme atomique, tu ne pourras plus espérer une coalition de l'OTAN qui pourrait aller bombarder ou envahir le pays. Ce serait vraiment beaucoup trop risqué. Donc, moi, je pense que c'est les options là, les plus crédibles qui ont été amenées par les analystes. Puis je pense que ça fait du sens. Lorsqu'on regarde également l'autre point que je voulais amener, c'est que, c'est la réponse iranienne. Comment on considère la réponse iranienne dans tout ça? C'est une réponse très spectaculaire parce qu'avec le dôme de fer, il y a eu, des feux d'artifice sûrement très terrorisants pour la population. Quoique la population d'Israël, c'est probablement une des plus résilientes au monde. Là.
C'est ça.
Probablement la plus résiliente d'Occident.
Sont habitués à lui-même, malgré que c'est plate à dire. Là, puis j'ai juste à dire, en fait, tous les drones que... Je veux dire, 99% des missiles et des drones que l'Iran a envoyés ont été abattus avant d'atteindre le sol. Il y a eu quelques dommages, mais donc on parle de quand même minime. Et on peut les croire ou pas, mais semble-t-il que l'Iran aurait fait une déclaration officielle en disant « Garde, on a répondu, on s'est fait entendre. » Puis en gros, ils ont l'air à dire « Ben, il n'y aura pas de suite à ça. Là. C'est juste pour dire c'est que tu nous attaques, on t'attaque, that's it.
C'est spectaculaire, mais on dirait que ça a été quand même bien calculé. Okay? Mm-hmm. Parce que même si c'est spectaculaire, ils n'ont pas envoyé de missiles hypersoniques. Okay? Ils possèdent déjà des missiles hypersoniques, donc ça, ils n'en ont pas envoyé. Côté tactique, c'est probablement bon qu'il n'y en ait pas envoyé pour eux, parce qu'à partir du moment où tu en envoies, on peut mieux les étudier et on peut essayer de les contrer plus facilement. Ils ont envoyé des drones très lents, okay, qui ne sont pas des drones de dernière technologie. Et c'est un peu, il n'y a pas eu de mort. Et ils ont, selon les renseignements américains de ce matin, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a deux facilités militaires, deux bases militaires qui auraient été touchées avec au moins 9 missiles, c'est ça qu'ils disent. Pas de mort. Malheureusement, une petite fille qui lutte pour sa vie, ça, c'est vrai, ça, c'est dommage. Ben, c'est, je veux dire, c'est pas juste dommage, là, c'est terrible. Mais il n'y a pas eu de mort, donc il y avait certainement une volonté qu'il n'y ait pas de mort. C'est ce qu'on pense, parce qu'ils ne voulaient pas que le conflit escalade. Et ils ont envoyé des drones très lents. C'est un peu comme si, on sent, c'est un peu la façon qu'un analyste en parlait, puis je trouvais ça drôle, ben drôle. Drôle et non, là, on s'entend. C'est comme si moi, Joey, je te dis, Joey, je t'attaque dans 2 semaines. Puis là, dans 1 semaine, je te rappelle, je te dis, Joey, je t'attaque dans 1 semaine à telle heure. Puis là, la veille, je te dis, Joey, j'arrive, je marche jusqu'à chez toi. Puis là, je te dis, Joey, j'arrive près de ta porte. J'entre. Puis là, je marche tranquillement vers toi. Ça ressemblait un peu à ça. Tu sais, il y a comme... Ils ont comme averti à l'avance, 2 semaines à l'avance, ils ont envoyé des drones, des drones très lents, qui savaient que le dôme de fer était capable. Ils ont envoyé des...
On se demande, c'est pas en bout de ligne un stunt politique pour perdre la face, quasiment. Là.
Ça ressemble à ça.
Parce que c'est ça, parce qu'en gros, puis j'écoutais des débats en fin de semaine, des gens, en fait, que... On conçoit du bord palestinien ou israélien, c'est pas ça mon point, mais il y en a qui disaient, mais tu sais, en gros, un des arguments, c'est toi, si t'aurais, pas que tu aies été Netanyahou, mais si tu aurais été premier ministre d'Israël le jour du 7 octobre, et peu importe, je comprends, il y a une réalité historique derrière, il y a eu d'autres atrocités avant, mon but, c'est pas ça mon point, mais il disait, qu'est-ce que tu aurais fait? Ben, à part dire, j'aurais pas fait ça, ouais, mais il y a quand même une réalité géopolitique que, OK, ben, s'il n'y aurait rien foutu, ben, premièrement, il serait premier ministre, tu vas dire, ah, ben, si on s'en fout, c'est juste une personne. Oui, je comprends, je sais, mais j'essaie de comprendre un peu le derrière tout ça. Fait que même chose pour l'Iran, que justement, ils sont fait missiler un consulat en Syrie. S'il n'y aurait rien foutu, ben justement, l'ayatollah, il aurait l'air un peu fou, là, tu sais.
Ah, il avait pas le choix de répondre.
C'est rien qu'une question de perception tout le temps, là, pour ce qui est des géopolitiques.
Il avait pas le choix de répondre des deux mêmes. Parce que là, si ta souveraineté est directement attaquée, tu as un missile qui arrive sur ton territoire, puis tu utilises encore juste un proxy, tu perds la face complètement. Face à son peuple, face au peuple, parce que le peuple iranien s'attendait, du moins une partie du peuple, une partie de l'élite qui contrôle le pouvoir, s'attendait à une réponse d'Israël, mais en même temps, ils marchaient sur un fil de fer parce qu'ils ne veulent pas justifier une attaque de Washington. Et donc, une coalition de l'OTAN pour bombarder leurs facilités nucléaires et des sanctions encore plus importantes sur leur économie. Donc, ils ont trouvé une façon spectaculaire, ça ressemble à ça, très spectaculaire de faire les choses. Envoyer un avertissement, un peu comme ce qu'un des deux auditeurs écrit, je suis assez d'accord avec ça, sans faire trop de dommages et idéalement sans faire de mort. Donc là, c'est comme la fine ligne, c'est comme la fine ligne qu'ils ont tenue. Mais ça aurait pu être dangereux, parce que fais juste imaginer, mettons qu'il y avait eu un missile mal calculé qui aurait tombé, par exemple, sur Tel Aviv, puis il y avait eu 150 morts. Ça aurait pu créer. Puis c'est souvent ça, hein? Ça a été assez...
Oh, ouais.
Le phénomène de l'escalade, ça a été très bien étudié, particulièrement tout au long de la guerre froide. Puis c'est fascinant. Regardez, il y a vraiment de la science en arrière de ça, puis des études qui ont été faites, des études psychométriques également. Et ce qui est dangereux, souvent, l'escalade arrive lorsqu'il y a des accidents. Parce que chacun va essayer d'intimider un petit peu plus l'autre sans nécessairement vouloir détruire l'autre. Mais à partir du moment où il y a un accident qui arrive, un missile qui est supposé de tomber à un endroit, il tombe juste un petit peu plus loin, une erreur de calcul ou, des proxys qui n'ont pas bien écouté ce que tu leur disais et qui se mettent à déraper complètement, c'est là que tu as des chances d'escalade. Et je terminerai là-dessus parce que je sais qu'il faut que tu enregistres bientôt. avec Ian et Frank. Pour terminer, est-ce qu'il y a des chances à court terme qu'il y ait une troisième guerre mondiale? Je pense que non. Ça serait très improbable. Je ne pense pas, personnellement. Surtout que tu n'as vraiment pas une volonté de Washington avec l'élection présidentielle. Le leadership de Joe Biden va être très testé. Ça va être intéressant de voir. Je pense que s'il est capable de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'escalade, il risque de gagner des points pour la présidentielle. S'il y a une escalade majeure, un conflit régionalisé, je fais partie de ceux qui pensent que ça va aider beaucoup Donald Trump à revenir au pouvoir. Par contre, c'est ça. Donc, son leadership, ou du moins le leadership de son organisation va être testé. Risque de conflit régionalisé, difficile à dire. J'aurais tendance à dire que non, il n'y en aura pas à moyen terme. Maintenant, d'ici 2-3 ans, pas capable de prédire ça, mais je ne pense pas que d'ici l'élection américaine, il y ait un méga conflit généralisé au Moyen-Orient, en raison particulièrement du fait, là, tu vois, le G7 a condamné, condamné, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est qu'est-ce que tu fais qui est important, et il n'y a vraiment pas l'air d'avoir d'appétit. Il n'y a vraiment pas l'air d'avoir d'appétit des Américains d'aller plus loin dans ce conflit-là, et des forces de l'OTAN également. Donc, au moins, ça, c'est quand même rassurant. Et là, je sais qu'il y a des gens de la droite au Québec qui vont être contents. Je termine là-dessus. Qui est le grand gagnant de ça? Je te laisse guesser. Vladimir Poutine.
Ah.
Il y en a qui vont tellement être heureux, les amoureux de Poutine. Pourquoi? Ben, je veux dire, lui, si ça peut juste s'embraser un peu... Puis si les États-Unis ont les yeux rivés et le portefeuille rivé sur le Moyen-Orient, à partir de ce moment-là, lui...
L'Ukraine, on n'entend pas même parler ces temps-ci. Là, ça se passe toujours, mais c'est rendu secondaire. Là. Zelensky, sa World Tour de Financing, il n'est plus au goût du jour. Là. Fait que... Ah, c'est... T'as absolument raison. En tout cas...
Qu'il y a une question qui revient souvent ici. Il va y avoir escalade rapide, selon les infos que j'ai, le sacrifice de la jeunesse rousse d'ici avril.
Oh, la fameuse, t'étais-tu au courant de ce genre de prophétie-là? Là, on rentre
on rentre
dans le politico-religieux, là.
OK, c'est pas mon domaine.
C'est la reconstruction du troisième temple. Ça va arriver avec le sacrifice de la personne jeuniste.
Oui, je sais ce que tu veux dire.
C'est le Red Heifer, là. En fait, c'est comme un jeune veau 100% roux, puis et comme une prophétie biblique.
Oui, je sais ce que tu veux. Je sais ce que tu veux dire. Honnêtement, je n'ai pas de connaissance.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, que ça soit en cours ou pas, ben, ils vont faire le party, puis ça n'arrivera pas. Je suis désolé, là, mais tu sais, moi, personnellement, regarde, je pense pas que le Seigneur va, ou le Dieu, le Père, ou whatever, va descendre du ciel après le sacrifice d'une jeunesse rousse, puis que ça va tout changer. Là. Est-ce qu'il va y avoir des turbulences reliées à ça, à Jérusalem elle-même? Il est fort possible que ça arrive. Mais c'est ça, c'est pas parce que, autant que je suis pas croyant non plus, mais de l'autre côté, c'est ça, ils font les petits rituels, puis personnellement, à part faire un peu les médias, puis faire un peu parler, puis faire brasse un peu, je pense pas que ça va changer la réalité géopolitique là-dedans, même s'il y a beaucoup de politiciens israéliens qui y croient, là, ça veut pas dire, c'est ça, c'est pas du crowd mentality qui va aider le truc. Écoute, Karim, merci beaucoup, ce matin, c'est vraiment... Mais j'ai un bon sujet, sérieusement, ça fait pas mal le tour, puis dreadpoil ce qu'on dans le timing, puis c'est toujours intéressant, c'est ça, des fois, sortir une fois de temps en temps un peu de le domaine de la santé, pas qu'il n'est pas intéressant, puis même, j'étais curieux de ton sujet de cette semaine avec la fameuse annonce de Christian Dubé de la semaine passée, au pire, on en parlera la semaine prochaine.
Je me suis dit, on va en parler la semaine prochaine, parce que, tu sais, on parle toujours de la santé, puis comme, tu sais, moi, j'aime ça, disons, peut-être une fois par cinq, six semaines, là, aller outside of the box un peu, parce qu'il n'y a pas juste la santé non plus. Puis, c'est intéressant là, d'ouvrir nos horizons, puis d'essayer d'analyser un petit peu qu'est-ce qui se passe, surtout que la politique du Moyen-Orient, ça m'intéresse, sans prétention, mais écoute, je pense que... ça a été intéressant. Puis, je te souhaite un bon enregistrement. On se reparle la semaine prochaine.
Yes. Puis, bon début de semaine, tout le monde. Bye-bye.
Bye.